Matthieu, chapitre 13. Vraiment, votre Bible doit s'ouvrir toute seule à cette page-là. Sauf si vous avez une Bible électronique. Hein. Là, c'est un peu différent. Matthieu, chapitre 13, et nous allons lire le verset à partir du verset 31-33. Le texte est tout petit. Hein, tout petit. On va lire deux paraboles. Non seulement le texte est petit, mais en plus il y a deux paraboles. Matthieu chapitre 13, verset 31, il est dit ici, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est grand. Il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis, qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Voilà, c'est nos deux paraboles pour ce soir. Elles sont aussi racontées dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, je vais vous lire, Marc chapitre 4 et au verset 30. Marc chapitre 4, verset 30, il dit... Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Donc on voit ici qu'il cherche, Marc indique que Jésus, par cette parabole, représente le royaume de Dieu. C'est une information un peu supplémentaire par rapport à Matthieu. Il dit, il est semblable à un grain de sénevé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il est semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et puis, si on lit dans Luc au chapitre 13, Luc chapitre 13, on trouve... la même chose, avec peut-être un petit détail, la même chose ici, Luc chapitre 13, et on va lire au verset 18. Luc chapitre 13, verset 18. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparerais-je? Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever la pâte. Ici. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu des différences dans les lectures de ces trois récits, on pourrait dire, de la parabole. Matthieu et Marc parlent du grain qui est comment? Qui est petit. Et Luc, il n'en parle pas. Vous avez remarqué, hein? Luc ne dit pas, n'insiste pas sur la taille un peu ici du grain. Donc c'est la même histoire, mais il n'insiste pas sur la taille. Il y a peut-être quelques petits détails qui sont différents, mais en gros, globalement, il y a pas cette insistance qu'on trouve chez Marc et puis chez Matthieu. Alors, le grain de sénevé, nous dit dans la parabole que nous avons, ce qui est difficile, c'est que Jésus n'a pas donné d'explication. Hein. Jusque-là, on a vu des paraboles où Jésus, il a dit, voilà, il a parlé de la parabole du semeur, et il a dit, il a donné la signification à ses disciples. Il a parlé de la parabole de l'ivraie et du champ, on l'a vu la dernière fois, et il a donné... Le sens, ce qu'il fallait, il a expliqué. Alors là, On ne sait pas s'il l'expliquait, mais en tout cas, on n'a pas l'explication que Jésus aurait pu donner à ses disciples. Alors, il faut tenter de comprendre. Souvent, quand c'est comme ça, on essaie d'utiliser les images comme elles ont été utilisées ailleurs, mais ce n'est pas toujours évident ici. Alors, ce qui est sûr, c'est que Jésus parle d'un grain de sénevé. Et il insiste, il parle du caractère petit de ce grain, d'accord ? Grain de moutarde, peut-être que dans votre texte c'est écrit grain de moutarde, c'était une très petite semence, et sans doute la plus petite que les auditeurs de Jésus connaissaient. Hein. C'était pas forcément la plus petite dans l'absolu, mais c'était peut-être la plus petite que eux ils connaissaient ici. Et les commentateurs disent que dans la pensée des rabbins, la graine de moutarde était quelque chose de proverbial pour la petitesse. On utilisait ça comme un proverbe pour décrire la petitesse. Donc c'est un symbole de la petitesse ici. Alors une fois en terre, nous lisons que cette petite semence, elle germe, elle s'élève, elle devient plus grand que les légumes. C'est vrai que Jésus dit dans Matthieu qu'elle devient comme un arbre, je crois. Hein, elle devient un arbre ici. Bon, et on peut penser à un grand arbuste parce qu'il semble que c'est plus, ça donne souvent plus un arbuste, mais quand même qu'il y en a, il y a quelques variétés, quelques grains de moutarde qui peuvent donner des arbustes assez grands qui peuvent être comparables quand même aux arbres. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il dit que ici, et cet arbre devient d'une telle sorte que les oiseaux du ciel viennent se nicher dans ses branches. Alors, on n'a pas d'explication, je le dis ici, et les commentaires sur ces deux paraboles. Parfois, les commentateurs ont des interprétations qui sont diamétralement opposées. Hein, diamétralement opposées. Donc, juste pour reprendre les images, hein, le texte que vous avez lu dans Ézéchiel, parce que vous avez lu Ézéchiel 17, parle d'un arbre dans lequel vous avez fait attention à cela. Hein, les oiseaux viennent se nicher, etc. Donc, c'est un texte qui... On peut dire que ce que Jésus dit ici, ça rappelle, en tout cas, une imagerie que les gens avaient déjà dans l'Ancien Testament. On pourrait voir la même chose aussi dans Ézéchiel 31 ou dans Daniel 4, hein, vous rappelez, avec Nebuchadnezzar, hein, dans Daniel chapitre 4, versets 10 à 12. Ce qu'on peut dire, hein, puisque Jésus dit que c'est une petite graine, mais qui devient comment ? Un grand arbre. Et il dit que ça c'est le royaume. Le royaume des cieux, hein, je relis, le royaume des cieux est semblable à cela. Donc on peut penser qu'il parle d'une croissance, d'une extension, d'un développement, puisqu'on parle de quelque chose qui est petit pour arriver à quelque chose qui a pris de l'ampleur. Alors je pense que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Là où ça diverge, c'est sur la nature de la croissance. Qu'est-ce qu'il croit ? Est-ce le bien ou est-ce le mal? D'accord? Et la question qui est posée, c'est que, est-ce que la proximité avec la parabole de l'ivraie vous rappelez, où le malin, l'ennemi vient et il sème de l'ivraie parmi le blé et l'ivraie pousse, en poussait certains à dire que, et puis l'explication de Jésus qui vient après ces deux paraboles-là, à les inclure dans le sens un peu négatif, quoi. Donc, ce qui croit, c'est encore cette mauvaise semence et ce mal qui a tendance à venir et cherche à s'infiltrer dans le royaume de Dieu pour le détériorer. Hein. Et puis, certains, par exemple, pensent que les oiseaux, ici, sont comme les oiseaux de la première parabole. Vous vous rappelez les oiseaux, qu'est-ce qu'ils faisaient la première parabole? Ils venaient... Et il récupérait les graines pour les manger. Donc, c'était le malin qui venait, qui enlevait la parole. Donc, l'image encore toute proche ici, ça peut être aussi les oiseaux, ça peut représenter, certains disent que ça pourrait représenter aussi le mal. Et puis, en plus, si on prend
Donc, c'est-à-dire que certaines personnes voient une croissance, on pourrait dire, anormale dans le royaume des choses qui s'infiltrent, qui ne devraient pas être. Et puis, en plus, si on regarde la parabole du levain, ici, le levain, ça a, dans la Bible, une image voilà, négative du péché, parfois. Hein. Plusieurs pensent, voilà, donc ça fige vraiment le sens plutôt négatif de la croissance que Jésus décrit ici. Mais d'autres personnes interprètent la parabole aussi comme une croissance saine, hein, comme la croissance du royaume. Parce que Jésus dit quand même, le royaume des cieux est semblable à... Il est semblable à quoi? Il est semblable à un grain de sénévé qui... Donc, quelque part, il dit à quoi est, comment on pourrait dire, est semblable au royaume des cieux. Dans la parabole de l'ivraie, il avait dit quoi? Le royaume des cieux est semblable à quoi? Non, pas comme... Il n'a pas dit comme ça, il avait dit comment? Un homme qui a semé une bonne semence. Donc, c'était qui l'homme qui a semé? Vous vous rappelez? C'est Jésus, c'est le Fils de l'homme. Il a dit après, hein, le semeur. Donc, il dit que la parabole est semblable à, hein, au Fils de l'homme qui fait quelque chose. Donc, il y a cet aspect positif, on pourrait dire, dans la présentation de la parabole. Il n'a pas dit la parabole est semblable à de l'ivraie qui a été semée. Par exemple, ça serait négatif. La parabole, c'est semblable à un homme qui a semé. Après, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ici, il dit la parabole, le royaume de Dieu, est semblable à un grain de sénévé. Donc, on a l'impression que le grain de sénévé qui est petit, qui grandit, c'est quelque chose qui est positif pour décrire le royaume. Il décrit le royaume positivement. Il décrit pas quelque chose de le royaume en termes négatifs, hein, voyez. Donc, c'est pour ça que moi, je penche pour cette explication positive aussi de cette parabole, dans laquelle Jésus enseigne vraiment que ce que le royaume est dans son, on pourrait dire dans son commencement, et probablement pour encourager les disciples, hein, qui voit peut-être pas grand-chose, qui voit peut-être de quelque chose qui semble petit. En général, quand on parle de royaume, on s'attend à quoi? Alors, la reine d'Angleterre vient de disparaître, hein, mais si on vous dit c'est quoi le royaume d'Angleterre, vous n'allez pas dire c'est un grain de sénévé, c'est un tout petit truc qui... Non, vous allez penser en termes faste, n'est-ce pas? C'est grand, c'est des palais, c'est beaucoup de choses, c'est splendide. C'est une garde, comment ça s'appelle encore là, une garde républicaine, c'est un spectacle, hein, c'est grand, n'est-ce pas, hein? Vous avez dit quoi? C'est à garde royale, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, oui, voilà, bon, comme vous voulez, voilà, donc c'est grand, c'est royal, disons, hein, c'est ça que je voulais dire. Mais quand les disciples, quand les Juifs attendent ce royaume, les disciples, ils attendent ce royaume. Vous vous rappelez la question qu'ils ont posée à Jésus en acte, Luc le rapporte en acte, il dit, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et Jésus dit, ben, il ne vous appartient pas de connaître, etc., les dates, etc. Mais voilà, ils attendent quelque chose ici. Et qu'est-ce qu'il voit? Un sauveur qui... ils étaient déçus, hein, qui était là, qui n'était pas un roi conquérant, qui était pauvre, qui n'avait pas un lieu où mettre sa tête, qui meurt sous l'égide des Romains. Ça paraît vraiment pas royal. D'accord? Ça ne ressemble pas à un royaume. Et donc, probablement, Jésus veut les encourager. Même les pharisiens, rappelez-vous, avaient posé à Jésus la question de savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Je vous lis, hein, il pose cette question dans Luc chapitre 17.
et au verset 20, ils disent, le texte dit, « Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu ?» Vous vous rappelez la réponse de Jésus ? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là, le voilà, il est grand comme ça ». Il dit « Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous ».
Il est où, Seigneur ? On ne le voit pas. Il est...
Les graines s'énervent. Mais ne vous inquiétez pas, dit Jésus, il va devenir un arbre. Et les oiseaux vont venir se nicher dans ses branches. Donc on pourrait vraiment comprendre cela aussi, que Jésus enseigne vraiment le caractère imperceptible de la venue du royaume. Et donc c'est l'image qu'on trouve dans cette petitesse du grain de sénévé. Et à l'époque de l'Empire romain, les chrétiens étaient peu nombreux, n'est-ce pas, comparativement à la masse de la population, à la masse des religions polythéistes qui existaient. Les quelques disciples de Jérusalem étaient un petit grain de sénévé, ils n'étaient pas très nombreux. Et puis, petit à petit, on voit que l'évangile s'est propagé. Donc c'est comme si Jésus disait quelque part, il ne faut pas se laisser tromper par la petitesse ou le caractère imperceptible du royaume. Ou par le fait que, par exemple, si on prend la parabole du grain de l'ivraie, par le fait que le mal peut agir même auprès des enfants de Dieu. Il dit de même que le grain de sénévé se développera pour donner un arbre, le royaume de Dieu, bien que démarrant tout doucement, eh bien, se développera. Et rien ne pourra l'arrêter. Même le grain, on n'arrête pas, l'arbre pousse, on n'arrête pas. Donc, l'évangile, on pourrait dire ici, se manifeste par de faibles commencements. L'évangile se manifeste par de faibles commencements. Si on regarde l'histoire de l'évangile, une humble étable, un enfant d'une famille, née dans une famille pauvre, tout petit, une petite ville, petite entre les milliers de Judas, c'est petit, d'accord ? Une petite poignée de disciples, d'accord ? Un message considéré comme faible et petit, scandale pour les uns, folie pour les autres, n'est-ce pas ? C'est ça le message de l'évangile. Christ crucifié, scandale pour les uns, folie pour les autres. Je me souviens de ce philosophe, une fois, j'avais vu dans une émission sur Internet, il dit, qu'est-ce que le christianisme ? Qu'est-ce que le christianisme a donné ? Un Christ crucifié, avec mépris, c'est ça comme ça. Une manière de dire, c'est rien. À ses yeux, c'était petit. Mais Paul dit, scandale pour les juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu, d'accord, pour ceux qui sont sauvés ici. Donc, tout cela, n'est-ce pas, n'est qu'un grain de moutarde, un grain de sénévé aux yeux du monde. Et Jésus lui-même, il appelle son peuple petit troupeau. Vous vous rappelez ça ? Ne crains rien, petit troupeau. Il dit, pourquoi ? Parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Encore une fois, le royaume est un tout petit troupeau auquel Dieu va donner le royaume. Et il va se répandre et se multiplier. Et les oiseaux qui viennent se nicher à ce moment-là dans ces branches peuvent être considérés comme tous ceux qui, quand le royaume se développe, quand l'évangile se développe, mais tous ceux qui bénéficient aussi de l'évangile de la grâce. Soit les nations, soit les gens qui viennent, qui sont au contact de l'évangile. L'évangile produit la bénédiction pour ceux qui croient aussi, mais aussi beaucoup de gens qui sont au contact de chrétiens jouissent de la bénédiction de l'évangile. Quand l'apôtre Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 7, vous vous rappelez, il dit à la femme qui a un mari qui n'est pas chrétien de ne pas se séparer de lui, parce qu'il dit, que le mari qui n'est pas chrétien est sanctifié par la femme qui est chrétienne. C'est quelque chose, ça. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction
dont jouissent ceux qui ne connaissent pas Dieu quand ils vivent normalement dans la proximité des croyants qui vivent eux-mêmes pour le Seigneur. Hein, bien sûr, si on vit dans les autres, c'est autre chose, mais qui vivent eux-mêmes. Donc, on pourrait imaginer les oiseaux un peu comme cela, comme dans l'image du texte que vous avez lu ici. Hein, c'est quand même, quand on parle des oiseaux qui viennent se nicher quelque part, ça n'a pas un sens négatif. Hein, ça a un sens de sécurité, de protection. Je vous relis le texte d'Ézéchiel 17. Il dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'enlèverai moi ta cime, la cime d'un grand cèdre, et je la placerai, j'arracherai le sommet de ses branches, un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je la planterai sur cette haute montagne d'Israël. Il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, et tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. » C'est une image positive quand même. On n'a pas l'impression qu'il parle de quelque chose, que les oiseaux vont venir et voilà, on ne les voulait pas du tout là, ils sont venus. Non, c'est quelque chose qui est positif et ça ressemble à ce que Jésus dit ici dans cette parabole. On peut donc voir ici, hein, si dans l'histoire donc de l'extension du royaume, comme je disais tout à l'heure, les nations donc qui seront touchées aussi par l'évangile, hein. L'Inde, les Antilles, ceux qui vont me dire après les Antilles, c'est pas une nation, les Antilles, la France, l'Afrique, tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Aujourd'hui, l'évangile a commencé avec une petite poignée de personnes, mais aujourd'hui dans le monde entier. Les gens sont touchés, hein. Les gens sont touchés. Les gens ont pu venir, le royaume s'est étendu, les nations sont venues et ont pu jouir du salut en Jésus-Christ. Alors la leçon que pourrait tirer de cette première partie-là, c'est qu'il ne faut pas désespérer des petits commencements. Peut-être on peut être... on sait que le nombre, c'est quelque chose. Hein. Parfois, on a tendance à vouloir être gros pour être visible. Si on s'associe, on fait des grosses fédérations, des gros trucs, on sera plus visible. Alors, c'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais la tentation que l'on a souvent, c'est de croire que plus on est gros, plus on est visible, mieux c'est. Mais Jésus dit ici, ne vous laissez pas désespérer parce que quelque chose est invisible, petit, au commencement. D'accord ? Et concernant l'évangile, surtout, il ne faut pas désespérer de cela. Il y a même un passage dans Zacharie, je vous lis, hein, Zacharie 4, qui dit ceci, Zacharie 4, verset, je ne l'ai pas noté, Zacharie 4, 10. Alors, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Zacharie 4, 10 dit... Ici, car ceux qui, ouais, il parle de ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Les questions de construction, souvent quand on doit reconstruire, on voit des petits trucs, oh, ça démarre pas. C'est... Mais il dit, hein, voilà, et on peut mépriser parfois les petits commencements. Ils sont très peu. Hein. Vous êtes tout petits, vous les chrétiens, hein, toute petite. Poignée de personnes. Nous sommes nombreux et on a envie d'être gros pour pouvoir penser qu'on sera plus visible, qu'on sera plus encouragé. Mais Jésus dit non. Hein. Il dit il ne faut pas vous laisser décourager par la petitesse du commencement, donc ni par la modestie sociale qu'on peut avoir. Hein. Mais chez nous, il n'y a pas des gens de haut rang social. On est vraiment tout petit socialement. Mais l'Évangile dit, hein, reconnaissez que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles, etc., tout cela. Et parfois, il y a des églises, ça peut arriver, il y a des mouvements d'églises où il y a des gens qui sont bien, il y a beaucoup de personnes, on dit, ouais, là, ils sont bien, c'est bon, ils sont bien. Mais il dit, non, c'est pas ça qu'il faut regarder. Hein. On peut être de petits commencements sociaux, on peut être de petits nombres, etc. C'est pas ça qui est important. C'est les commencements, faut pas mépriser les petits commencements. Et l'Évangile progresse par petits commencements. Deuxième petite parabole, rapidement, Jésus parle après du levain. Il dit cette autre. Alors je les mets ensemble parce que je crois que c'est la même pensée qui est développée. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris dans 3 mesures de fleurs de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Alors plusieurs considèrent ici cette parabole comme figurant le progrès du mal un peu. C'est vrai que le levain, on l'a dit tout à l'heure, a cette connotation un peu dans l'Écriture. Par exemple, Exode chapitre 12, verset 15, lors de la Pâque, vous vous rappelez, il était demandé aux Juifs de chasser, faire la chasse au levain. Ils ne devaient pas trouver de levain dans la maison. Je vous lis Exode 12, verset 15 dit, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. » Voilà, donc il fallait chasser le levain. Jésus avait exhorté ses disciples à ne pas, à se garder avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu chapitre 16, verset 6, « Gardez-vous !» Et eux, ils ont dit, « Ouais, parce qu'on n'a pas pris du pain. » Ils ont associé tout de suite le levain au pain, mais ce n'était pas ça, c'était « Gardez-vous de leur enseignement. » D'accord, il a dit, c'est comme du levain. L'apôtre Paul a utilisé l'image du levain plusieurs fois. Et notamment, 2 fois, il dit, il y a une phrase particulière, il dit, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Et il dit ça dans une situation d'inceste qui n'était pas réglée dans l'église de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 5, et il le redit encore dans Galates chapitre 5, verset 9, concernant la fausse doctrine. D'accord ? Il dit, voilà. Et donc, ce que ça montre, c'est l'influence, on pourrait dire ici, négative de la fausse doctrine, l'influence négative du péché dans le cas de l'inceste, l'influence négative de l'enseignement des pharisiens quand Jésus dit « Gardez-vous du levain des pharisiens ». Mais on peut remarquer, d'accord, que même si le levain a cette connotation le plus souvent négative, il n'a pas eu que la connotation négative dans l'Écriture. Par exemple, regardez Lévitique 7, verset 13. Donc, il y a des auteurs qui citent ce passage, Lévitique 7, verset 13. Quelqu'un veut lire ça? Et quelqu'un d'autre prend Lévitique 23, verset 17. Lévitique 7, verset 13, pardon. Le premier qui trouve le lit. Rapidement.
À ce gâteau, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce.
Voilà, ok. Là, on parle de pain levé avec les sacrifices d'action de grâce. Ok. Donc, ça n'a pas, là, ici, la signification du péché, parce que comment offrir quelque chose qui est le symbole du péché, etc. Lévitique 23, verset 17. Quelqu'un là? Ça, c'était à la Pentecôte, à la fête de la Pentecôte, en Lévitique 23, 17.
Vous apporterez de vos demandes deux pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel.
Voilà. On offre à l'Éternel du pain cuit avec du levain. Donc, ça n'a pas toujours que une image négative. Et puis, aussi, ce qu'on pourrait souligner, c'est qu'un même symbole n'a pas toujours une même signification. D'accord ? Un même symbole n'a pas toujours une même signification. Et un commentateur fit remarquer, par exemple, que l'arbre dans Daniel chapitre 4 symbolise l'orgueil de Nebuchadnezzar. Mais dans le psaume 1, l'arbre symbolise la croissance du croyant. Okay? Donc, c'est tous les deux des arbres, mais dans un cas, ça symbolise quelque chose de négatif. Dans l'autre cas, ça symbolise l'orgueil, grand comme un arbre, ses branches s'étendent, etc. Et puis, dans l'autre cas, il dit ses branches s'étendent, il est comme un feuillage, il est planté près d'un courant d'eau. D'accord, c'est l'image de la croissance harmonieuse du croyant qui est plongé dans la parole. Donc, une même image, un même symbole n'a pas toujours le même, n'indique pas toujours, n'a pas toujours la même signification. Et donc, pour comprendre, il faut certainement s'attacher au contexte de ce que Jésus dit. Donc, si on prend le contexte positif de cela, on peut dire que ce que Jésus dit en utilisant le levain, ce n'est pas le levain en lui-même, mais c'est l'influence. Ce qui est utilisé comme la signification consiste à parler de l'influence qu'a le levain. Le levain a une très forte influence. On le met dans une pâte et c'est invisible, on ne va pas le voir, mais il va faire lever la pâte. Il aura une influence, on pourrait dire, quasi irrésistible dans cette pâte. Et donc, en disant un peu de levain, quand l'apôtre Paul dit un peu de levain fait lever toute la pâte, c'est toute l'influence de la mauvaise doctrine qu'il veut souligner en Galates chapitre 5. D'accord. C'est pas la mauvaise doctrine seulement en elle-même, mais c'est l'influence qu'a la mauvaise doctrine. Le fait que si on la laisse, elle va agir, elle va se développer. D'accord. Et pareil, quand Jésus dit « gardez-vous du levain des pharisiens », il parle, et pour dire que le levain n'avait pas une mauvaise image dans l'esprit des disciples, c'est que quand Jésus parle du levain, à quoi il pense ? Il pense au pain. Il dit, oh, on n'a pas pris de pain. D'accord ? Donc le levain, c'était pain, c'était pas quelque chose qui avait une connotation forcément négative dans leur esprit. Hein. Et donc, quand Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens, il parle de l'influence que peut avoir il faut s'en garder parce que cela va avoir une influence néfaste dans votre vie ici. Donc dans la parabole du levain, on peut admettre que Jésus parle de l'influence forte du royaume de Dieu. 3 mesures de fleurs de farine, ça représentait à peu près 20 kilos de farine, hein, à peu près 40 litres hein, si vous comptez en volume. Et on met un petit peu de levain et c'était capable de faire enlever toute cette masse-là. Et donc, il dit que le royaume de Dieu est puissant pour influencer le monde. On ne le voit peut-être pas, il est peut-être imperceptible, mais il influence inévitablement le monde. Et c'est comme cette femme qui met du levain pour faire lever la pâte. Eh bien, pareil, l'évangile, le royaume de Dieu, c'est comme il s'étend comme par l'influence de la pâte, du levain dans la pâte. Et John MacArthur dit, il résume ça comme ça, il dit, mise dans le monde, la plus petite partie du royaume ne manquera pas d'influencer le reste. Car elle renferme la puissance de l'esprit même de Dieu, l'influence du royaume et l'influence du roi, de sa parole et de son peuple fidèle. Et même, quelques chrétiens mis quelque part, s'ils sont au Seigneur, et je veux dire qu'ils sont fidèles dans l'annonce de l'Évangile, cet Évangile-là va toucher des cœurs et l'Évangile va se propager. Et c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit quand on regarde l'histoire de l'Église. Et parfois, il a fallu combien de personnes ? D'un homme, d'un réformateur quelque part, pour que les choses puissent se développer. Un homme fidèle, hein, il y a des gens qui disent ça, donnez-moi un homme fidèle, et c'est pas Wesley qui disait ça, hein. Je ne sais plus, hein, qui dit « Donnez-moi un homme fidèle et on va bouleverser la terre. Hein, » un petit peu. Ce n'est pas la puissance de ces hommes-là, la puissance intrinsèque, mais c'est la puissance de l'Évangile propagée au travers de ces hommes-là. Donc, Jésus dit, voilà, ça agit comme du levain de pâte, mélangé à une pâte, ça fait inévitablement lever toute la pâte. Et donc, on peut penser à Philippiens chapitre 1, verset 6, quand l'apôtre Paul dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est-à-dire le petit commencement à l'intérieur d'une vie avec une œuvre qu'on voit à peine, elle deviendra certainement parfaite parce que c'est comme le levain dans une pâte. Hein, ça s'étend, ça se développe et ça fait lever toute la pâte. L'Évangile transforme inévitablement la vie de toutes les personnes, n'est-ce pas ? Donc ça nous encourage, je pense. Je pense que ces deux paraboles nous encouragent à ne pas désespérer de la petitesse des choses, à ne pas désespérer peut-être du caractère imperceptible de l'effet de l'Évangile peut-être dans la vie des autres. Peut-être on ne voit pas grand-chose, mais il y a des choses qui se font. Et puis, quand on voit de petites choses qui se font, eh bien, ça doit nous encourager à louer Dieu pour cela et à prier davantage pour une continuation des choses. Mais à ne pas croire qu'il n'y a rien parce que c'est tout petit. Pas du tout. On doit être encouragé. Jésus encourage ses disciples qui auraient pu être découragés en ne voyant pas grand-chose, en disant il y a des choses qui se passent inévitablement. Vous ne les voyez peut-être pas, mais un jour ça sera manifeste. Mais le royaume de Dieu, c'est le principe que Dieu veut. Il commence petitement, il se développe doucement, mais inévitablement. Et les progrès dans la vie des uns et des autres, ça doit nous encourager, nous rendre patients les uns avec les autres. Ils se font tout doucement. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, d'irruptif, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Comme le levain dans la pâte, on ne voit rien, et puis on voit la pâte qui, à un moment donné, elle est gonflée. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu travaille dans les cœurs. Cela doit nous encourager pour nous-mêmes, nos propres vies, mais cela doit nous encourager aussi à être patients dans la vie des autres, à prendre le temps, à expliquer, à témoigner, à parler, sachant qu'un jour, hein, si Dieu touche, eh bien les choses vont se faire inévitablement. Voilà, c'est le mieux que je puisse expliquer sur ces deux paraboles. Hein. Vous trouverez peut-être mieux si vous cherchez, mais c'est le mieux que je puisse faire. Et je pense que ça nous encourage. Je crois que c'est résolument positif que Jésus présente le royaume de Dieu en disant que c'est comme un grain de sénévé. Non pas pour parler de quelque chose de mauvais, mais pour parler de quelque chose de positif dans le développement du royaume. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci encore de nous éclairer par ton esprit et de nous donner, de nous réjouir parce que ce que tu fais est merveilleux. Oui, ce que tu as commencé, tu le mèneras à perfection. Et nous sommes encouragés de voir combien de personnes dans le monde sont maintenant touchées par ta parole, Seigneur. Nous ne connaissons pas toutes ces personnes, nous ne sommes peut-être même pas au courant de combien précisément sont touchés, mais nous savons que ce grain de sénévé qui a été planté en terre, quand tu es venu sur terre, Seigneur, a germé et s'est étendu comme un arbre. Et les nations peuvent venir se réjouir à ta lumière. Nous te remercions pour cela. Nous te prions que tu nous donnes d'être patients, de ne pas mépriser ce qui commence petitement dans ton œuvre, dans tes églises. Seigneur, de ne pas être découragé parce que nous voyons peut-être de grandes églises à un endroit et puis de petites à d'autres. Seigneur, c'est toi qui agis, c'est toi qui fais l'œuvre et nous te louons pour ce que tu fais. Donne-nous de nous encourager par ta parole parce que tu nous dis que ce que tu as commencé, tu le mèneras à perfection. Et nous te louons pour cela. Que ton nom soit béni. Amen.